Je suis content de voir que tu es là, Charles. Charles est un petit peu balade cette semaine.
C'est exact.
Fait qu'on a été chanceux. Il est médicamenté, fait s'il dit plus de conneries que d'habitude, vous saurez pourquoi. cette semaine, on n'a pas de sujet principal, mais on va quand même faire le tour de plusieurs petites choses qui ont retenu l'attention des gens dans les médias les dernières journées. On va essayer de vous donner un podcast sans mentionner le mot Trump plus que c'est la une fois que je viens de le dire. Peut-être mettre l'emphase sur des sujets un petit peu plus locaux à ce qui nous intéresse au Québec, avec l'exception de peut-être... notre ami Google, on verra si on a le temps de se rendre là. Aujourd'hui, à Montréal, il se passe un truc assez intéressant. Moi, ça m'a fait rire, en fait. Je vais vous lire la première phrase, là. Puis pendant que je vous lis la première phrase, essayez de deviner là, de quoi qu'on parle, OK? Ça, c'est la première phrase de l'événement sur Facebook. Nous aimerions commencer par reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanienkeaka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiotika, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, blablabla. Bla, bla, bla. Ça continue comme ça. Vous êtes prêts, là? C'est quoi cette affaire-là? Eh bien, c'est le premier paragraphe pour la marche des femmes de Montréal. Fait qu'en ce moment, là, pendant qu'on vous parle, il y a la marche des femmes qui se passe à Montréal et un peu partout dans le monde. J'imagine qu'aux nouvelles, tantôt, on pourra voir ça, des ramassis de femmes avec des chapeaux poussis sur le fait de la tête qui vont se balader pour diverses raisons. En fait, d'après leur page Facebook, ils se baladent pour toutes. Il y a une litanie de problèmes pour lesquels ils font face.
Ouais, ben, la part du temps, ils marchent pour des droits qu'elles ont déjà.
Ben, c'est,
oui. Et petit fait intéressant, si on regarde l'origine du mot hystérie, ouais, prends ta gorgée d'eau.
Première niaiserie de la journée, là, ça s'en vient. Puis yes. Aux filles qui nous écoutent ou aux femmes qui nous écoutent, vous allez pas l'aimer.
Non, ben c'est intéressant des fois de regarder du côté de l'étymologie, parce que ça nous renseigne sur les origines d'un mot. Et la racine grecque du mot hystérie, c'est hystéra, qui signifie utérus. Donc, quand je vois des gens porter un trouble mental sur la tête, je trouve ça assez intéressant quand même. Et ce que je trouve encore plus intéressant, et c'est sorti la semaine dernière, c'était qu'il semblait avoir des dissidences au sein du mouvement féministe.
Ah, surprise.
À l'effet que les chapeaux vagins étaient sexistes et transphobes, voire même racistes, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont un vagin, hein? Ce qui est transphobe. Et ce n'est pas toutes les femmes qui ont un vagin de couleur rose, parce que certaines femmes racisées, pour reprendre leur expression, que personnellement je déteste, là, ont plutôt une couleur dans les tons de brun. Donc, elles attaquent le symbole pour reprendre leur terme, du sexual empowerment de l'année dernière, et souhaitent qu'on l'abolisse pour cette année. On saura qu'est-ce qu'il en est devenu, parce qu'il y a le New York Times qui a décidé de faire une vaste enquête sur que sont devenus les chapeaux vagins. Il demandait à des femmes qui l'ont toujours là, de leur écrire, est-ce qu'ils l'ont mis sur un piédestal, est-ce qu'ils l'ont accroché sur leur mur, est-ce qu'ils l'ont mis dans une boîte, bon, que sont-ils devenus? Tu sais, des sujets vraiment importants, là. Avec tout ce qui se passe, là, que sont devenus les chapeaux vagins, là? On avait vraiment besoin de ça.
Moi, la seule affaire que je regrette, là, c'est que j'en ai pas acheté une couple de centaines, puis que je suis pas allé les vendre aujourd'hui au début de la marche. On a manqué une possibilité de faire du cash.
Ben, c'est ce qu'ils faisaient. Ben, l'année dernière, ce qu'ils faisaient beaucoup, c'était de vendre les ou d'envoyer gratuitement les patterns pour les tricoter elles-mêmes.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est au fond est essentiellement à la base du système capitaliste, c'est-à-dire des initiatives individuelles pour aider leur communauté. Là. Bravo, madame, vous comprenez le sens du capitalisme.
J'aurais dû aller voir pour le pattern. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de truc, puis c'est super facile.
Ça aurait-tu été beau, moi? Avoir été moins malade, là, peut-être que j'aurais fait ça. Arriver là-bas avec un beau chapeau pénis. J'arriverais à jouer la rue Sainte-Catherine avec un beau chapeau phallus, là. Un peu comme la tour de Roger Gaudry à l'Université de Montréal. Tu sais, comme un... Un bel appendice viril, là. Une tumescence pénienne, hein, érigée.
Qui s'étire vers le ciel.
Smash de patriarchy. Ça aurait été beau. Évidemment, j'aurais probablement eu une horde d'hystériques sur moi, pour reprendre l'origine du mot grec.
Mais en passant, on a passé proche d'aller faire des entrevues là, aujourd'hui, mais hier, quand on a discuté, moi puis Charles, j'ai fait un petit peu de recherche pour me rendre compte qu'on n'a pas l'équipement nécessaire pour faire ce genre d'entrevue.
Mais une prochaine fois, on essaiera de s'organiser.
Je vous garantis que ça s'en vient, surtout que j'ai l'espoir que la neige va fondre un jour et qu'on pourra aller dehors sans se geler les grelots. On va s'organiser parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Là.
Ça aurait été intéressant de discuter intéressant. Avec les femmes qui sont là, savoir pour quelles raisons êtes-vous là alors que tout est pratique, tous les... Il n'y a aucun droit vraiment là, qui en ce moment.
Mais je peux comprendre. L'année dernière, là, si on revient dans le passé puis on regarde le contexte où on en était l'année dernière, je comprenais l'année dernière c'était quoi. C'était plus un mouvement de résistance envers la présidence américaine que c'était. Un truc de droit de la femme. C'était plus en réponse, je pense, au pussy grabbing, puis à toutes les conneries anti-femmes là, qui sont perçues, causées par le président. Je pense que c'était surtout ça l'année dernière. Cette année, j'ai l'impression qu'ils utilisent la même marche pour d'autres raisons un peu plus nébuleuses, moins claires, ou peut-être c'est juste une raison pour aller marcher dehors, je sais pas, là. Mais c'est pas... mettons que, en tout cas, ils sont dehors. Moi, je le vois comme ça.
Comme le disait l'honorable Jean Charest, hein, c'est important que les gens fassent du sport. Ils prennent une marche, puis c'est correct. Hein. Il disait ça quand les étudiants ils faisaient des manifestations chaque soir.
La belle époque.
Ils les haïssaient tellement.
Il était pas le seul. Moi, le premier. Ouais.
D'ailleurs, petite parenthèse, sur les étudiants, il y a l'AC qui est en difficulté.
Hey, c'est vrai, j'ai vu ça, hein?
J'étais tellement heureux.
Ils vont peut-être se dissoudre. Ouais. Ça a l'air que depuis que Gabriel Nadeau-Dubois et Martine Ouellet sont sortis de là, que là, ça a été une chicane, des chicanes internes, a pu finir. Puis que là, ils sont à la veille de mettre en avance une motion pour la dissolution de l'AC.
Ben. Moi, je me souviens, là, j'étais au cégep de Maisonneuve dans le temps, puis on avait eu une assemblée pour vérifier si on se joignait à l'AC. Moi, j'étais contre. Je préférais avoir une assemblée locale qui n'avait aucune affiliation externe.
Ouais.
Et j'ai toujours vu ça comme une dérive du mouvement étudiant. Une concentration du pouvoir, là, c'est généralement pas une bonne chose. Je préfère que ce soit des assemblées locales puis souveraines qui fassent leurs petites affaires. Je suis très heureux que l'AC vive des difficultés. Je m'en réjouis. Donc, petite parenthèse.
Ils nous ont assez coûté cher, là. Moi, ça me dérange pas des voix.
Ah oui, ça a coûté cher en overtime.
La seule affaire qui est sortie de l'AC, là, c'est une job pour Gabriel Nadeau-Dubois. Là. OK, là, il y en a eu plusieurs, en fait, mais en tout cas, comme vous savez, chers auditeurs, je l'aime pas.
Oui, mais faut que tu restes gentil avec lui si tu veux un jour qu'il vienne.
Viens, mon petit Gabi, viens! Viens en entrevue! Je vais même te donner des gummy bears.
Vous savez que la question de la marche, honnêtement, personnellement, dans le contexte du mouvement hashtag MeToo, là, ça me dérange pas. Il y avait clairement des prédateurs sexuels. Puis le profil psychologique typique des prédateurs sexuels, c'est souvent des losers. C'est souvent des hommes qui sont incapables d'entretenir une relation stable autrement que par ces pratiques-là. Puis
Quelques exceptions près, ouais, là, ouais. C'est souvent ça.
Mais la dérive de ce mouvement-là me préoccupe énormément, où une simple accusation anonyme devient un verdict de culpabilité immédiatement, ouais, dans l'espace public. Et j'ai l'impression qu'on confond les agissements de quelques hommes avec un profil psychologique particulier avec tous les hommes. Et la semaine dernière, je parlais de la distribution de Pareto, dans laquelle une minorité de personnes font tout, dans le fond. Si tu compares le nombre de CD produits, de CD vendus, de buts scorés, ben, c'est une minorité de gens qui performent au-delà de tout le monde.
C'est presque comme la loi du 20-80 là, qui s'applique partout, mais, dans toutes les sphères de la vie. Là.
Mais ça s'applique aussi sous le plan des criminels. C'est une minorité d'individus très instables qui font la majorité des crimes. Et présentement, malheureusement, dans ces marches-là, ce qu'ils soutiennent, c'est qu'il y a une culture du viol. On y reviendra plus dans le détail quand on va faire un épisode d'au mois de mars, mais qu'il y a une culture qui encourage le viol, qu'il y a une culture principalement défendue par les hommes en général pour opprimer les femmes. Ça tient pas la route. C'est clairement les agissements d'une minorité d'hommes, puis diriger ça en dogme pour ensuite discriminer l'ensemble des hommes, c'est quelque chose de très nuisible. Ça se voit dans les statistiques sur les hommes. C'est pas surprenant que le suicide soit la plus importante cause de décès pour les hommes de moins de 45 ans. C'est pas surprenant que les hommes comme sortent de la société, lâchent le travail, lâchent l'école, puis se réfugient, comme on le disait, là, le sexodus, là, se réfugient dans le porn, les jeux vidéo, puis le sport. C'est pas surprenant que l'homme qui sort de la société quand il y a un discours aussi hostile à l'égard d'eux comme individus. Et ça, c'est la pensée collectiviste où on leur impute un crime généralisé alors qu'ils n'ont rien à se reprocher sur le plan individuel. Le mouvement MeToo part d'un bon sentiment. Si on donne un espace pour que les femmes puissent s'exprimer et faire une forme de justice, ben allez-y, mesdames, d'être dénoncées. Mais le fondement de notre système de droit, c'est l'intention. C'est pas les conséquences. Peu importe comment vous vous sentiez, ce qui est important, c'est l'intention de la personne. Est-ce que la personne avait dans l'intention de commettre un crime? C'est ça la vraie question. Mm-hmm. Et présentement, on est en train de shifter ça vers... C'était quoi la conséquence? Et ça, c'est un shift qui est dangereux. C'est très dangereux. Ça fait 1000 ans qu'on est fondé sur l'intention. Puis là, comment est-ce que je me sentais? Il y a eu le cas de Grace avec le comédien de Parks and Recreation. J'ai oublié son nom.
Aziz Ansari.
Ouais. Ben ça, au fond, c'est juste un problème de communication d'une femme qui est manifestement très peu mature sur le plan interpersonnel. Clairement, il y a eu un malentendu. Puis, honnêtement, moi, j'ai lu l'ensemble du cas. J'ai regardé les retombées qu'il y a eu dans les médias. Puis, je vois pas ce que ce gars-là a vraiment à se reprocher. À aucun moment, il y a utiliser la violence, l'intimidation, il a pas menacé de la blackmailer, c'est pas un Harvey Weinstein, là. On dirait que la pire affaire qu'il a fait, c'est y proposer du vin blanc.
C'est parce que les gens, on dirait qu'ils ont plus le droit de se sentir mal à l'aise. Moi, c'est un peu comme ça, je l'interprète. Moi, je pense que effectivement, il y a des trous de cul, là, qui abusent de leur pouvoir, puis qui vraiment mettent des gens dans des situations inacceptable. Mais là, je trouve que c'est rendu que si moi, je me sens mal à l'aise parce que toi, tu m'as dit une chose, je suis maintenant en droit de ruiner ta carrière. Non. Moi, je pense que ça commence à des dérives là, un peu exagérées. Puis, lié à ça, là, ce que tu disais tantôt pour... la culture du viol, puis toutes ces choses-là, c'est un peu relié à ce qu'on avait parlé dans un podcast antérieur de la de Google qui avait mis dehors le fameux James Damore. Là, si vous en souvenez, James Damore, c'est l'ingénieur qui a été congédié de façon très...
C'était sauvage.
Très sauvage par Google, parce qu'il a osé participer à un forum de discussion encouragé par la compagnie sur la diversité. Puis dans son manifeste, il disait principalement, là, si je paraphrase, parce qu'il y avait quand même, c'était 14 pages, me semble, son manifeste, il disait dans son manifeste que la culture chez Google est de sorte que tu n'as pas le droit d'avoir une opinion concernant la diversité qui va contre la majorité des gens chez Google. C'était plutôt, si on veut mettre en gros ce qu'il disait, c'était ça. Puis le résultat, il a été mis dehors. Prouvant, en fait, ce qui avançait dans son manifeste. Moi, je trouve qu'il a légitimisé son manifeste, ou ils ont légitimisé son manifeste en le mettant dehors. C'est comme ça que je le vois.
Et le gars a une excellente cache. On l'a mis sur la page Facebook, d'ailleurs, ouais, toute l'idée de la poursuite. Les médias en ont à peine parlé, j'en revenais pas. Quand il a publié son mémo, là, c'était mur à mur, puis là, maintenant qu'il poursuit, on n'en parle plus.
Mais oui, il n'en parle plus. Pourquoi il n'en parle plus? Parce que, OK, moi puis Charles, on est un peu débiles. La poursuite que James Damore a déposée contre Google, en fait, c'est un litige collectif. Fait que c'est pas juste lui. Il y a lui puis d'autres collègues de chez Google qui se sont fait remercier pour des raisons similaires. Puis qui, en fait, qui est ouvert à tout le monde qui a été lésé de cette même façon-là. Fait que donc, il y a d'autres gens qui pourraient s'ajouter à la poursuite éventuellement. La poursuite fait quoi? C'est 196 pages, je pense.
Ouais, c'est un solide 200 pages.
C'est assez solide.
Comme un jugement de cause suprême.
Oui, mais c'est... Écoutez, là-dedans, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des saisies d'écran, des copies de courriel, des discussions sur des forums internes de Google, des messages textes. Il y a des pages et des pages et des pages de... conversation entre des employés de Google qui rient des hommes blancs, qui disent carrément des choses comme « Ah non, je peux pas t'embaucher parce que toi, t'es un homme blanc puis vraiment, j'aimerais ça embaucher quelqu'un de couleur ou j'aimerais ça embaucher une femme. » Il y a une culture de bullying qui existe chez Google, c'est clair dans ça, là. Écoute, j'étais... sidéré quand je lisais ça, là, puis j'étais en train de lire ça, puis je textais Charles en même temps, puis je disais, mais j'en viens pas, je capotais. C'est insensé ce qui s'est passé chez Google. Puis James Damore, là, moi je lui souhaite là, qu'il ait raison en cours, puis que Google se fasse pincer les doigts là, bien comme il faut, puis que ça les pogne dans le portefeuille, parce que honnêtement, là, ça n'a pas de sens. Les gens chez Google, si t'es un homme blanc chez Google, là, pis en ce moment, là, ta carrière est limitée. Parce que les ressources humaines, les gestionnaires font mettent des pressions directes sur les managers pour pas qu'ils embauchent des hommes blancs.
Oui, c'est l'essence de la discrimination positive, des quotas. Et ça, au Canada, il y a bien des partis politiques qui font la promotion de...
Ça, c'est dangereux. Moi, c'est dangereux.
Oui, parce que si quelque chose n'est pas fondé sur la compétence, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Et c'est surtout, je trouve, c'est une atteinte à la dignité fondamentale des individus que de les traiter comme un groupe.
Oui, exactement.
C'est de nier leurs aptitudes individuelles. Hautement répréhensible et n'importe quel parti politique qui m'arrive avec une politique publique de discrimination positive à l'échelle nationale, comme on a eu plusieurs exemples dans les deux dernières années, c'est absolument inacceptable.
Je vais vous donner des exemples concrets. Okay? Moi, je travaille en TI depuis passé 20 ans maintenant. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe dans les équipes de TI. Puis ça, c'est un peu la méthodologie qui existe dans je te dirais, peut-être 85 à 90% des entreprises qui ont des activités en technologie. Il y a les projets sont démarrés, puis là, le chef de projet, il construit son équipe. Okay? Fait qu'il s'en va piger dans toutes les équipes de la compagnie pour aller chercher les meilleures ressources qu'il veut. Souvent, parce que les fils de projet sont financés avec en tête combien d'employés qu'il y a, il y a assez de projets pour tout le monde. Parce que souvent, il y a plus de travail, en fait, qu'il y a de budget, fait que c'est pas difficile de staffer ton monde. Mais là, ce qui arrive chez Google, là, c'est que quand un projet se termine, là, l'équipe est dissolue. Ça revient aux ingénieurs ou aux programmeurs de se trouver une nouvelle équipe. Mais là, le problème chez Google, c'est si tu es blanc ou un homme blanc spécifiquement, là, les gens ne veulent plus de toi sur ton équipe. Parce que leur statistique, affecter leurs statistiques de diversité de façon négative. À tel point que les gens sont ridiculisés publiquement si les statistiques des équipes ne sont pas égales, OK? Fait que si tu as, par exemple, une équipe qui n'est pas 50-50 hommes-femmes, ben là, les boss, là, ils vont rire de ton équipe. Puis pire que ça, si c'est il y a plus de femmes que d'hommes, t'es félicité. Bravo, t'as fait une bonne équipe, t'as plus de femmes que d'hommes. Ah, ben là, check l'équipe. Ah, là, eux autres, ils ont pas assez de noirs, ils ont pas assez de jaunes. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous êtes de même? Moi, je pense qu'il y a une limite. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les gens qui rentrent pas dans cette démographie qui ont besoin, ben, ils se font pas embaucher. Même si t'es le meilleur ingénieur du monde en ce moment, si t'es un homme blanc chez Google, tu vas avoir de la difficulté à te trouver une équipe, puis tu vas te ramasser sur les projets les plus poches. Parce qu'il n'y a personne qui veut de toi, parce que le focus n'est pas sur le mérite, n'est pas sur ce que tu dois accomplir dans tes tâches, mais sur la couleur de ta peau, puis qu'est-ce que tu as dans tes pantalons. Puis ça, c'est problématique. Oui, je comprends qu'on doit peut-être aborder le fait qu'il y a moins de femmes en technologie qu'il y a d'hommes. D'ailleurs, James Damore, il avait une belle solution pour ça. Lui disait qu'il faudrait trouver les raisons pourquoi que les femmes ne viennent pas en technologie, puis d'adresser ces raisons-là.
Oui, pour leur donner un incitatif de venir.
Mais oui! Ouais. Mais oui, c'est exactement ça.
Ça donne là, qu'il y a des différences marquées. Entre...
Mais oui.
Il y a beaucoup de zones de superposition. Mais quand tu regardes les extrêmes, ouais. C'est très, très genré.
Ben oui.
Ça donne que les extrêmes, mais c'est eux qui se ramassent dans les secteurs de pointe. T'sais, quand on parle d'un champ d'expertise, là, c'est une image mentale assez forte. C'est un champ. Un champ de blé d'Inde. C'est un champ, puis quand tu commences, c'est au milieu. Puis les gens qui sont à la pointe de ce champ-là, là, ceux qui vont au-delà, sont sur le bord du champ, là, puis qui repoussent les limites de la connaissance dans ce domaine-là. Bien souvent, ça va être des hommes. Quand tu regardes le milieu académique, milieu universitaire, là, les chercheurs de pointe, ça va souvent être des hommes parce que c'est des milieux très compétitifs, voire même, pas loin d'être violent. Là. Quand on regarde ce qui est publié dans les peer review journals, c'est révisé par les pairs de façon anonyme, et quand on lit, il y a des sites qui se spécialisent et qui font des inventaires des commentaires, là, c'est vicieux, là. Il faut vraiment se battre pour ses idées, puis c'est généralement le genre d'environnement qui ne plaît pas à une majorité de femmes.
Non, parce que en général, puis là,
fait que James Damore...
Comprenez bien là, qu'on dit ces choses-là de façon générale.
Oui, c'est des tendances.
Que ça ne s'applique pas à toutes les femmes, on le sait. Moi, je connais des femmes qui sont capables de rivaliser n'importe quel des hommes plus agressifs.
Il y a bien du overlap. Mais quand on regarde les extrêmes, tu sais, mettons...
Exactement.
Au-delà de 2, 3, 4 écarts types, c'est très genré.
Ouais.
Les extrêmes, là, c'est assez prévisible, en fait. Et James Damore proposait simplement de revoir l'organisation du travail pour... plaire davantage à la femme moyenne. Et ça, apparemment, c'était un discours inacceptable chez Google et il s'est fait mettre à la porte. Aujourd'hui, il poursuit et il y a un très bon case. Malheureusement, pratiquement aucun média en parle.
Personne qui en a parlé de son litige. Je ne comprends pas. Une histoire qu'il y a quoi? C'était quoi? Il y a 4-5 mois de ça, là, à peu près?
Arrivé en juillet.
C'est arrivé en juillet, OK, bon. Fait qu'il fait quasiment 7-8 mois. Tout le monde... parlait de James Damore, puis comment que c'était un trou de cul, puis comment que Google faisait bien de défendre les femmes. Mais là, il se passe cette poursuite-là, puis la seule fois où j'en ai entendu parler dans les médias, c'est d'un podcast qui vient de la région de San Francisco, puis les journalistes dans ce podcast-là, qui sont des journalistes que je respecte, ou que du moins que je respectais jusqu'à ce moment-là, ils ont parlé de James Damore, puis de sa poursuite contre Google pendant 20 secondes, le temps de le nommer, puis d'en rire. Clairement, ils n'ont pas lu la poursuite. Parce que moi, en l'ayant lu, je vois rien de drôle là-dedans. Là. Je trouve ça alarmant. Je pense que c'est une belle étude de cas pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver si on pousse trop là, vers la gauche de ce côté-là. Si on s'en va vers l'extrême, cette situation-là pourrait se retrouver affectée beaucoup de places. OK? Fait que Moi, je vous encourage fortement. Là, on l'a mis sur la page Facebook, la poursuite. Là, il y a un lien là. Si vous avez quelques minutes, là, juste allez voir dans les preuves. Là, pas besoin de lire les 200 pages, à moins que ça vous intéresse. En tout cas, nous autres, on en a lu une bonne partie. Mais allez voir, c'est assez révélateur de qu'est-ce que la société pourrait devenir si on ne fait pas attention.
Oui, et l'espèce de contrôle de la pensée, où il y a des conséquences sur le plan individuel pour une personne qui refuse de se conformer à une idéologie imposée par en haut. On le voit chez Google, on l'a vu cette semaine avec le Parti libéral du Canada, qui demandait pour les subventions pour les travailleurs étudiants durant l'été, qui se conforment à une idéologie particulière au niveau du droit à l'avortement. On dirait que de plus en plus, on cherche à uniformiser la liberté d'expression pour en faire une espèce de consensus général, alors que moi, je veux pas que tout le monde pense pareil, là. C'est par la divergence d'opinion qu'on est capable de trouver des solutions novatrices à des problèmes. Et les problèmes qui s'en viennent devant nous, ils vont être très complexes. On les a un petit peu abordés dans le podcast l'été dernier sur le salaire minimum, sur la semaine dernière aussi. On a des gros problèmes qui s'en viennent sur qu'est-ce qu'on va faire avec la main-d'œuvre, ne serait-ce que les 650 000 conducteurs de camions qui vont se faire éventuellement remplacer par des trucks qui conduisent tout seuls. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là?
Puis ça s'en vient vite. Là.
Ça s'en vient vite.
Je sais pas
vite.
Si t'es au courant de CES. T'as déjà entendu parler de CES?
Bon, oui.
Le Consumer Electronics Show à Las Vegas à chaque année qui attire, cette année, ça a attiré 80 000 personnes qui sont allées voir cette affaire-là.
Oui, j'ai un ami qui présentait un projet.
Ah ouais!
Il présentait des écouteurs qui sont capables. Au fond, il a combiné des écouteurs et un électroencéphalogramme pour mesurer les ondes cérébrales pendant que tu écoutes de la musique pour maximiser le niveau de concentration. Fait que ça envoie. Dès que le G détecte que le cerveau se déconcentre un petit peu et qu'il se met à vaquer à d'autres pensées, il envoie un cue sonore qui te dit « Oh, refocus ». Puis il garde
c'est
des.
C'est génial.
Oh, c'est très brillant. Il a levé quasiment 1 million US sur Kickstarter l'année dernière. Donc. J'ai un de mes amis qui me parlait de ce qui se passe là-bas. Puis effectivement, il y a des beaux projets qui se ramassent là.
Déjà, à Las Vegas cette année, pour le CES, si tu avais l'application Lyft, c'est un peu comme Uber, là, tu pouvais faire venir des voitures automatisées qui étaient conduites par des ordinateurs qui venaient te chercher. Puis tu avais le choix entre 40 différentes places où tu pouvais aller à Las Vegas. Il y avait quand même un chauffeur dans la voiture, mais il intervenait seulement en cas d'extrême. Comme il y a eu un exemple.
Dans le métro de Montréal.
Comme dans le métro de Montréal.
Comme dans les avions.
Ouais,
les avions, c'est en gros, perdu automatisé.
Dieu merci. Parce que moi, je regarde des pilotes rentrer dans l'avion, des voix, puis ça inspire pas la confiance. Mais que cela ne tienne, fait que les voitures. Tu pouvais choisir entre des casinos puis plein d'endroits. Puis fait que tu choisissais où tu voulais t'aller. La voiture arrive, t'embarques, tu pars. Puis le chauffeur, en général, il avait besoin d'intervenir. Moi, j'entendais une entrevue avec un gars qui disait que le seul moment où le chauffeur avait intervenu dans son trajet, c'est quand il a voulu tourner à gauche. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Las Vegas, mais sur le strip, là, pour tourner à gauche, c'est quelque chose. Puis il y avait vraiment trop de trafic. Fait que la voiture pouvait pas y aller. Tu sais, comme un humain, s'il y a trop de trafic, des fois, puis si le trafic est slow, ben, tu vas tourner un petit peu la fois, puis là, les gens arrêtent, puis là, tu passes. Mais tu sais, l'ordinateur, il fait pas ça. Là. Il a tanké sa place. Pis,
l'ordinateur n'est pas un trou de cul sur la route.
Ouais, exactement. Oui, mais tu sais, mais écoute, t'es déjà là à Vegas, c'est l'enfer. Fait que, tu sais, le trafic là-bas, ça n'a pas de sens.
C'est quoi,
là.
C'est 10 voies de large?
Ouais, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, dans ces situations-là, il y a quand même dû intervenir. Mais je pense que, mais tu sais, quand toutes les voitures seront automatisées, mais là, ils vont se parler. Là. Fait que les voitures, ils vont arrêter, ils vont te laisser passer, puis ils vont continuer. Parce que ça sera tout interconnecté.
Ça, petite parenthèse, c'est d'ailleurs la technologie qui est en train de sauver BlackBerry, qui est une compagnie canadienne qui faisait des cellulaires autrefois.
De hardware.
Puis qui ont bien de la misère dans les cellulaires, mais qui ont refocusé ça dans les interfaces informatiques.
Ouais.
Et ils ont travaillé sur une belle plateforme pour les voitures intelligentes. Et c'est ce qui les maintient à flot en ce moment. Là, ouais. Donc, Ça s'en vient, là. L'automatisation va venir exacerber des tendances qui étaient déjà en place. Que le salaire minimum va accélérer encore plus, évidemment, parce que c'est des emplois qui demandent somme toute peu de qualifications, qui vont pouvoir se faire de façon purement autonome. Et puis, l'augmentation des coûts va inciter les entrepreneurs à faire le switch vers l'automatisation plus vite qu'ils ne l'auraient fait autrement. Donc, bravo, vous allez sacrer du monde à la rue plus vite. Mais au final, on va se ramasser avec plein de gens qui n'auront plus nécessairement les compétences appropriées pour le marché, qui va évoluer de plus en plus rapidement. C'est ça qui était difficile, hein? Tu remontes un siècle en arrière, tu pouvais... Mettons que tu n'avais aucune compétence, tu peux quand même te ramasser dans un champ puis sortir des choux, des carottes puis des petits cocombes puis faire ta vie comme ça puis ou aller dans n'importe quelle usine puis tu pouvais t'en tirer avec relativement peu de compétences.
Ou tu pouvais devenir apprenti en quelque part. Il y avait des chemins faciles vers l'autosuffisance, en fait.
Aujourd'hui, on va se ramasser avec une industrie qui bouge très rapidement, qui est en transformation constante et... Je sais pas dans quelle mesure est-ce que les gouvernements vont être prêts à réagir rapidement.
Gouvernement, ça bouge pas vite. Hein.
Non. Mais en fait, juste au niveau de l'agence de revenus, ils sont 15 ans en arrière. On parle beaucoup des paradis fiscaux et ces choses-là. Ils commencent à s'intéresser aux transactions que les gens font sur Kijiji. Ils commencent à faire ça. Vous êtes 15 ans en arrière. Là. Les gens sont même plus sur Kijiji.
Ouais, c'est vrai, hein.
Ils sont
tout le monde est sur Facebook maintenant. Les ventes, les petites ventes, les petites annonces classées. Là,
c'est beaucoup d'argent.
Hein? C'est incroyable comment ça se passe sur Facebook.
Je connais des gens qui en vendent, qui vendent beaucoup. Puis, je veux pas les détails, mais je regarde qu'est-ce qui rentre et qui sort dans leurs affaires. Puis, il y a de la transaction qui se passe là. Puis, ils ont aucune vérification. Je sais, c'est quand même intéressant. Mais toujours est-il que le gouvernement présentement est un peu pris ou. Au point où l'économie bouge plus vite qu'ils sont capables de réagir. Puis, augmenter le salaire minimum, c'est pas une solution. Présentement, le salaire minimum, ça fait un peu office de revenu minimum garanti. Nous, on veut s'assurer que les gens aient au moins le salaire minimum. Mais le problème avec cette solution-là, c'est que ça évacue des gens qui sont pas capables de travailler parce qu'ils sont soit handicapés ou soit ils ont juste aucune compétence en demande sur le marché. Ou bien parce que les gens sont âgés. Bref, ça laisse des gens de côté. Puis on a un peu abordé ça la semaine dernière. On n'était pas d'accord sur sur certains points, mais on était d'accord sur la situation qu'il faut aider le monde. T'sais. Puis là, on n'est pas d'accord sur la façon de le faire, mais il y a quand même un point qui commence à faire jaser. Puis ça séduit tant à gauche qu'à droite. Puis c'est une forme de revenu minimum garanti. On a plusieurs partis politiques au Québec qui prônent cette solution-là. On va y revenir plus en détail là, quand on va se rapprocher des élections. On va faire le tour de la plateforme.
Moi, j'ai hâte de voir si ça va même être sur la plateforme.
Ah, c'est déjà sur la plateforme de plusieurs partis, dont Québec solidaire, évidemment.
Oui, mais des fois, ça peut être sur la plateforme. Ça a le temps de...
Oui, c'est ça. Ils vont avoir leur congrès.
Ça va être de voir c'est quelle importance ça va avoir dans le débat.
Mm-hmm.
C'est parce qu'on n'est pas encore rendu... en tant que société, à un point qu'on n'a pas atteint encore le moment critique.
Non, c'est ça, c'est pas encore atteint.
Fait que c'est pas, je pense pas que c'est assez important dans la conscience des gens. Mmh. Là où ça va devenir important, là, c'est quand les gens vont vraiment commencer à perdre leur job. En ce moment, là, tout chômage est super bas, là, c'est pas vraiment un problème. Là, fait que je suis curieux de voir comment ça va être débattu, ça. En fait, je pense que ça va être intéressant. On va sûrement avoir la chance d'en parler encore plusieurs fois.
Mais... La situation qui me préoccupe dans tout ça, c'est que les gouvernements ne semblent pas réaliser la grosse transformation du travail qui s'en vient. Puis ça dépasse de loin ce qui s'est passé, mettons, avec la révolution industrielle. C'est plus juste de prendre les gens qui travaillaient autrefois dans des champs, puis les mettre dans des usines, les mettre dans des bureaux. Là. C'est, des machines vont faire leur job. Et comme toute transformation du travail, le marché tend à s'équilibrer. Ça tend à le faire. Puis le gouvernement, bon point de vue, vient un peu déranger l'équilibre naturel. Puis là, c'est de savoir, comment est-ce qu'on peut donner une forme de filet social? Parce qu'on est une société quand même très riche. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. À gauche, on préconise beaucoup le revenu minimum garanti. En Finlande, ça n'a pas trop marché. Ils l'ont essayé depuis un an et demi, puis les résultats sont mitigés parce que les gens n'ont pas un incitatif à se trouver un emploi parce qu'ils reçoivent un minimum et disent « ben ça, pour moi, c'est assez ». Puis ça fait juste créer de l'inflation parce que les gens reçoivent de l'argent gratuit. Puis au final, il n'y a pas de productivité additionnelle derrière ça. Il y a d'autres personnes, plus du côté libertarien, qui aiment beaucoup l'impôt négatif. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mm-hmm. C'est quand même une idée intéressante qui permettrait, par exemple, de fermer la plupart des programmes sociaux puis de juste retourner des crédits d'impôt remboursables aux gens. Ça pourrait être géré directement par Revenu Québec puis Revenu Canada. Ça aurait l'avantage de réduire la bureaucratie puis de retourner du cash. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. Elle recevait plusieurs programmes sociaux puis c'était de l'argent pour faire une chose en particulier. Ça, c'est pour ton loyer, mm-hmm. ça, c'est pour de l'épicerie, ça, c'est pour ci, ça, c'est pour ça. Je trouvais que c'était vraiment une atteinte à la dignité fondamentale des individus. C'était très... Je trouvais ça un peu envahissant comme que le gouvernement dise aux gens comment dépenser leur argent. Et puis, s'ils se mettaient à gagner un petit peu trop, ben là, whoop, ils se faisaient couper. Fait qu'au final, ça devenait une espèce de piège à pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là où ils sont sur un programme social, puis ils se mettent à gagner juste un petit peu plus, ouais. ils sont immédiatement coupés.
Ouais.
L'avantage de l'impôt négatif, c'est que les gens ont toujours un incitatif de gagner plus, parce que ce qu'ils gagneraient de plus leur coupe pas dans la même proportion ce qu'ils recevraient du gouvernement. Donc, par exemple, si une personne... si on détermine que le seuil minimum pour l'impôt négatif, c'est 30 000 $ ben... Si la personne décide de travailler, si une personne qui a zéro revenu, ben, elle recevrait la moitié, mettons 15 000. Ça ferait le taux d'inclusion qui est de 50% qui est généralement admis en économie. Fait que la personne recevrait 15 000 $ qui est la moitié de l'exemption fiscale. Mais si elle décide de travailler plus, elle va juste l'additionner à son revenu avec le même taux d'inclusion. Elle recevrait pas moins d'argent soudainement. Parce qu'il y a des gens sur le minimum en ce moment. Ça, c'est un petit peu insidieux. Le gouvernement, en réalité, c'est un bon move pour eux d'augmenter ça à minimum parce que ça sort plein de monde des programmes oui. sociaux.
Puis ça augmente les revenus fiscaux,
ça ramasse plus de taxes. Oui. Fait qu'au final, moi, j'ai jasé avec plusieurs clients qui étaient sous le salaire minimum puis qui ont réalisé que quand le salaire minimum augmentait, ça appauvrissait. Puis tu imaginais ça, c'est un système complètement régressif qui terrifie les entrepreneurs qui sont des startups, qui ont souvent très peu de moyens. Là, j'ai des clients là, qui ont essayé d'embaucher en 2017 puis qui n'ont pas été capables parce que les charges sociales étaient trop importantes. Ils ne pouvaient pas se permettre.
Je pense que ça, c'est un aspect que les gens y oublient, en fait, dans le calcul des salaires minimums. Tu sais, les entreprises, mettons McDonald's, okay, là, qui embauchent des milliers de personnes au salaire minimum, c'est pas juste le salaire que tu dois payer. C'est par-dessus le salaire, tu as des obligations au gouvernement puis à l'employé.
Oui, il y a 6 charges sociales pour les entreprises.
Que l'entreprise doit payer par-dessus le salaire minimum. Fait que là, puis ça, ça se calcule par pourcentage. Fait que quand tu augmentes le salaire, mais tu augmentes ces charges-là aussi. Fait que c'est pas aussi simple que de dire, on augmente juste de 12 à 13 piastres, ça coûte juste une piastre par heure à l'entreprise. C'est pas vrai. Surtout les grosses entreprises, ça fait des sommes astronomiques. On l'avait déjà calculé là, à un moment donné dans un épisode. C'est assez cher. Par contre, de là à faire comme qu'ils ont fait en Ontario, là, avec le fameux Tim Hortons en Ontario, qui a tout coupé partout là, pour une hausse de 1$. Là, par exemple, j'ai des doutes.
C'était plus qu'un dollar. Là.
La hausse était de 1$ pour les 6 employés.
Je pense qu'il était passé de 12 à 14.
Oui, mais les employés étaient déjà payés 13.
Ah, OK.
C'était ça l'astuce là-dedans. Là. Fait que j'ai de la difficulté à croire que ce jump-là faisait... qu'il y avait tout, en tout cas, moi, je pense que dans ce cas-là, ils en ont profité pour utiliser ça comme excuse pour réduire leurs coûts de façon substantielle.
Ben, je sais pas. Ça, c'est qu'on présume des intentions, mais... D'un autre côté, une grosse entreprise, on a un auditeur qui nous en a parlé, puis c'est rare que je vois ça, mais vous avez parlé de la VAN, valeur actuelle nette, qui est la façon dont on chiffre le rendement sur un projet d'entreprise. Les organisations doivent respecter leur VAN, et si les coûts augmentent, ben, soudainement, il faut qu'ils recalculent leur VAN, puis si ça balance pas, il faut qu'ils trouvent des façons d'économiser. ils ont des impératifs de rendement envers les actionnaires. Les actionnaires, c'est qui? Les fonds de retraite, en majorité.
Sauf que dans le cas du Tim Hortons, là, c'est des franchisés. Tim Hortons ne prend pas les décisions. C'est pas des méga corporations. C'est des franchisés indépendants qui œuvrent dans leur milieu. C'est pas Tim Hortons. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à croire là, que le monsieur ou la madame, en fait, qui était propriétaire de ce Tim Hortons-là, que c'était fait de façon éthique. Moi, j'ai des doutes. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. D'ailleurs, il était supposé avoir des manifestations en fin de semaine.
Il y a quelques-unes. Je suis ça un petit peu. Il y a quand même un bon petit mouvement derrière ça.
Ouais.
Mais la question, moi, qui me préoccupe dans tout ça, c'est le contrôle. C'est savoir qui a le contrôle, qui a le pouvoir. Et le but, c'est que le contrôle soit le moins concentré possible. C'est ça le but, ultimement. Parce que dès qu'une personne lance un monopole, en fin de compte, ben c'est là que ça devient dangereux. C'est là qu'il peut y avoir des abus. Parce que si il y a de la compétition, puisque la compétition, c'est un mécanisme absolument merveilleux qui protège tant les consommateurs contre les abus de prix que les employés contre les abus de leur employeur, parce qu'ils peuvent juste aller voir ailleurs si les conditions sont meilleures. La compétition est un mécanisme souhaitable. Parce que quand bien même que tu es la plus grosse corporation de tous les temps, si c'est un marché libre, elle ne peut pas prendre ton argent à moins que tu y donnes, dans un échange consensuel. Alors que le gouvernement, lui, peut aller saisir ton argent, peut aller saisir ton compte de banque. Et quand il met des lois comme le salaire minimum, c'est pas quelque chose qui résulte d'une relation consensuelle sur un marché compétitif. C'est une imposition avec un fusil sur la tempe qui dit « Si tu fais pas ça, on va saisir tes actifs puis tu vas être vraiment dans la merde.
Mm-hmm. »
Je trouve que vraiment, au Canada, on cède beaucoup de terrain sur le plan des libertés individuelles. Il y a beaucoup de nouvelles régulations qui rentrent en ligne de compte. On en a parlé à quelques reprises durant l'année, mais le gouvernement libéral de Justin Trudeau a mis plusieurs lois pour qui viennent soit augmenter les coûts, qui viennent baliser ce qui est acceptable dans l'espace public au niveau de la parole, des propos. Et si on regarde le portrait d'ensemble, là, on cède beaucoup de terrain au gouvernement, puis ça se fait nécessairement au détriment des libertés individuelles. Et les libertés individuelles, là, qu'on ne l'oublie pas, c'est la pierre angulaire de la société occidentale. C'est l'individu qui, par sa créativité, est capable d'exercer sa liberté pour changer le monde, en pratique. Il a une bonne idée, puis il dit « Arrête, moi, j'ai une bonne idée, je vais mettre ça en place, puis si c'est une bonne idée, les gens vont me donner de l'argent en échange de moi qui règle leurs problèmes. » C'est ça, l'entrepreneuriat. Et finalement, on a plein de mesures qui viennent freiner l'entrepreneuriat. Je travaille avec beaucoup de jeunes entrepreneurs. Des gens bien drivés, là. Ils ont des projets plein la tête. Ils sont vigoureux, puis ils veulent que ça marche, puis ils travaillent des heures de fou. Puis ils se butent à de la réglementation, à de la législation. Et ils n'y arrivent pas, alors qu'ils y arriveraient autrement. Et s'il y avait un petit peu moins de barrières. Fait que, présentement, on... Je sais pas où est-ce que ça va finir, ça. Je sais vraiment pas, mais ça me préoccupe.
Moi, je pense que ça devrait commencer par une réduction de toutes ces charges-là. Là. Ça n'a pas de sens. Là,
comme Trump fait.
c'est pas tout à fait ça que Trump fait. Trump s'occupe pas de la classe moyenne. On va s'entendre, là, il fait des réductions pour les riches puis les multimilliardaires. C'est pas, il n'est pas en train de réduire les charges fiscales de la classe moyenne. Mais on a dit qu'on ne parlerait pas de Trump.
Je sais, c'est un peu niaisé.
Moi, je ne suis pas capable, je pogne à chaque fois. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'il faudrait arrêter. Je l'ai dit la semaine passée, ça va faire les impôts, ça va faire les taxes. Je pense qu'on vient de passer à travers... un siècle d'augmentation de taxes par-dessus taxes par-dessus taxes, il serait temps qu'on fasse le contraire, qu'on fasse des réelles diminutions de taxes.
Mais la seule raison pour laquelle les gouvernements ont pu augmenter les taxes, c'est qu'il y avait le monopole. Il n'y avait aucun contrepoids et il y avait le contrôle sur l'argent. Parce que c'est bien difficile, mettons, pour une compagnie ou une personne dans les années 60 de sortir son argent du pays. Aujourd'hui, avec la monnaie scripturale, c'est très facile là, de pas se faire imposer dans un pays particulier, ce qui fait que, soudainement, les pays deviennent en compétition. Et ça, j'aime ça, parce que ça vient décentraliser le pouvoir. Et quand on voit l'émergence, des fois, j'ai regardé, il y avait quoi, 1400 crypto-monnaies? Hey, les Bitcoin, c'est le plus gros.
Ça, c'est intéressant.
Le Litecoin, l'Ethereum aussi, qui est bien populaire. Mais toutes ces monnaies-là, soudainement, se font en marge des économies contrôlées par les gouvernements. Et c'est absolument magnifique à voir.
Je pense que c'est un peu tôt pour savoir comment ça va réellement affecter les marchés. Mais je pense qu'il y a un potentiel. Ça va être, puis on s'en va de plus en plus vers une monnaie numérique de toute façon. Là. Il y a plus personne qui se promène avec du cash pratiquement. Mmh. À tel point que finalement, la STM a décidé cette semaine, ils ont fait une annonce, que finalement, on pourra payer dans l'autobus avec nos téléphones ou nos cartes de crédit à la place de se promener les poches pleines de cash. Hey, imagine, en 2017, tu pourras payer avec ta... 2018, pardon, tu pourras payer ta carte de crédit dans le boss. Il était temps. Honnêtement, là, il était temps. Fait que je pense que ça va être assez pour cette semaine. Charles, as-tu d'autres sujets à nous apporter?
Non, je pense que ça fait un bon petit tour de la dernière semaine. On va se tenir à l'affût pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a quand même des sujets chauds, là... à l'Assemblée nationale qui vont être discutés. Peut-être qu'on reviendra sur le Parti québécois qui a eu bien de la misère la dernière semaine. Là, Jean-François Lisée a pas dû avoir des très bonnes nuits.
Ouais. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. moi qui dors, lui, le mieux que c'est pour moi, je le déteste, ce gars-là. C'est un de mes personnages... En tout cas, j'ai hâte aux élections. J'ai vraiment hâte que ça parte. J'ai hâte de le voir se débattre dans l'eau chaude, comme on disait chez nous, un diable dans l'eau bénite. Là. J'ai hâte de le voir se débattre parce que je pense qu'il va avoir l'air plus fou qu'il n'a jamais eu l'air. Là. Maintenant, quand on va pouvoir vraiment mettre le spotlight sur lui, puis qu'on pourra voir à quel point il est cave. Là.
Moi, les élections vont être très intéressantes parce Québec solidaire et la CAQ...
Gabriel Nadeau-Dubois en élection!
Québec solidaire et la CAQ, on dirait, font une montée dans les intentions de vote.
Ouais.
On va voir si ça va se matérialiser par des appuis réels.
Nous autres, moi, c'est ce que j'aime. Moi, je vais te dire... tout le monde le sait, là, j'en ai parlé des millions de fois. Moi, je viens de Nouveau-Brunswick, puis une des choses que j'adore des campagnes d'élection au Québec, c'est que c'est jamais plate. Ça se passe jamais de la même façon d'une élection à l'autre, puis il y a toujours des surprises. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. J'ai l'impression que les gens, pour des raisons que je comprends encore pas, sont vraiment fatigués des libéraux, fait qu'ils vont les voter massivement contre eux. Fait que ça laisse une place pour la CAQ, parce que j'ai l'impression que le PQ n'est pas plus aimé non plus. Puis, qu'est-ce que ça va donner, là? Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas un politicien d'expérience, là. Il a à peine... il vient à peine à apprendre à comment se torcher tout seul. Fait que j'ai hâte de voir comment il va se démener dans des débats politiques sérieux, là, puis pas juste devant des syndicalistes qui sont déjà de son bord.
Moi, honnêtement, je suis content quand c'est pas des politiciens de carrière, parce que je me méfie des gens qui ont pas travaillé de leur vie. Puis qui sont juste payés par les taxes des gens.
Puis tu penses que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un gars qui a travaillé toute sa vie?
Non, mais c'est pas ça le point. Mais c'est dans le sens que j'aime bien l'idée de voir des mandats restreints puis que les gens fassent un passage temporaire au sein du gouvernement.
Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas un passage temporaire. Non. On va en parler pendant longtemps.
Ouais. Sinon, peut-être à titre de comparaison, on s'est pris, ma blonde et moi, un livre d'histoire quand on est allé faire le tour des Maritimes il y a 2 ans. On a pris un livre d'histoire de l'île du Prince-Édouard. Puis il parlait des pratiques électorales là-bas au 19e siècle.
C'était génial!
J'adorais ça. C'était peuplé par des Écossais et des Irlandais qui s'étaient ramassés là à louer des terres. Puis essentiellement, la personne qui gagnait les élections, ça se faisait à main levée. Puis c'était quiconque amenait le plus d'alcool. Ouais. Il y a eu des morts! Imagine les Écossais et les Irlandais.
Ben, sous.
Qui se tapaient sur la gueule.
Des tensions nationales qui restaient de l'ancien pays ou ce qui s'aimait pas trop. Ça devait être quelque chose.
C'était toute beauté. Non, mais je lisais le passage. Peut-être que je mettrais le.
C'est pas pour rien qu'on a signé la Confédération à Charlottetown. Hein. C'est parce qu'ils savaient que le parti était pogné.
Oui,
puis apparemment, la Constitution, quand ça a été signé, là, les pères de la Confédération, ils étaient sous morts.
Johnny McDonald était quand même un alcoolique notoire. Ouais. Ça buvait en tabarouette. Donc ça m'a bien fait rire ce passage-là.
Donc, on peut bien chialer contre notre élite politique, mais on n'a pas les politiciens qu'on avait.
Mais c'est-à-dire, c'était une autre époque. Hein.
C'était une autre époque.
Puis l'île Prince-Édouard, c'était pas spécialement industrialisé comme place. Fait que c'est sûr, c'était très rural. Puis comment tu séduis une population rurale? Ben, tabarouette, hein, v'là du fort, puis vote pour moi. À main levée.
Je vais, venant d'une population extrêmement rurale, je vais me passer de commentaires. Je vous rappelle, cliquez like, cliquez petite face enragée sur toutes nos affaires. Oh, ça va nous faire plaisir. On vous remercie encore du bon débat qu'on a eu cette semaine sur notre page Facebook, facebook.com/québecquoibalado. Vous pouvez aussi vous abonner à notre balado diffusion sur iTunes, Google Play et Stitcher. On a notre site web, québecquoi.ca. Puis si vous voulez chialer de vive voix, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au 1-888-458-4443. Puis c'est la première fois que je lis le numéro de téléphone sans regarder mes notes. 1-888-458-4443. Bonne semaine, Charles.
Bonne semaine, je vais aller prendre du sirop. Là.
C'est ça, fais donc ça. Bye-bye.
Bye.